divers aspects de la pensée contemporaine, aujourd'hui, le Grand Orient de France. Une émission préparée et présentée par Daniel Morfois.
Bonjour, Daniel Morfois en votre compagnie en ce premier dimanche du mois d'août. J'ai le plaisir de recevoir ce matin Daniel Keller, grand maître du Grand Orient de France. Bonjour Daniel Keller.
Bonjour.
Daniel Keller, vous quitterez pour des raisons réglementaires votre fonction de grand maître du Grand Orient de France après 3 années d'activité. Quel regard portez-vous sur ces 3 ans ?
Le souci qui a animé le Conseil de l'Ordre que j'ai présidé pendant 3 ans a été en permanence de mettre le Grand Orient de France en ordre de marche. Et aujourd'hui, on peut dire que on a bien œuvré sur, à mon avis, les trois axes qui sont constitutifs d'une politique obédientielle: organiser, fédérer et exprimer. Voilà. Organiser parce que le Grand Orient est une association, loi de 1901, qui doit effectivement être managée, comme on le dit dans les termes contemporains, avec rigueur, dans un esprit de transparence et d'efficacité pour susciter la confiance de l'ensemble des membres du Grand Orient de France, aussi bien au plan matériel que financier, ça a été fait. Fédérer, c'est-à-dire développer cette conscience d'appartenance et, bien entendu, mobiliser les loges du Grand Orient de France dans les combats qui sont les nôtres. Et puis exprimer, c'est-à-dire mettre le Grand Orient de France au cœur de la République, au cœur des débats qui aujourd'hui traversent la République, dans le souci de préserver les principes qui sont les nôtres, que nous avons toujours portés, et au premier rang desquels la laïcité.
Votre regard sur le Grand Orient de France a-t-il changé depuis votre accession à cette fonction ?
Ce qui a changé, c'est, disons, la regard que je porte sur l'ensemble des loges, des frères, des sœurs qui constituent le Grand Orient de France, parce que j'ai découvert un peu une nouvelle famille à travers la fonction qui a été la mienne. Et c'est vrai que toutes ces rencontres m'ont convaincu que c'est dans le cœur de chacun de nos ateliers que réside la pierre philosophale de la maçonnerie.
Est-ce que vous pouvez faire un bref état des lieux, une description, un état de l'obédience ?
Je crois que l'obédience, et le Conseil de l'Ordre est là pour s'en assurer, repose, à mon avis, sur 4 piliers. 4 piliers que nous avons essayé de solidifier avec la même implication. Le premier, je dirais, c'est un peu le carré magique, ce que j'appelle le carré magique de la franc-maçonnerie. Le premier pilier, c'est le pilier initiatique. Et nous avons, pendant 3 ans, fait tout ce qu'il fallait pour valoriser la dimension initiatique de l'ordre. Depuis les 240 ans du Grand Orient de France que nous avons célébrés en 2013, en passant par les 150 ans de la chaîne d'Union, en passant par notre implication majeure dans l'organisation de la très belle exposition sur la franc-maçonnerie à la BNF.
La chaîne d'Union, c'est notre revue.
C'est la revue initiatique du Grand Orient.
Symbolique, initiatique, voilà. Du Grand Orient.
Donc,
de France.
On a vraiment cherché à valoriser la dimension initiatique de la maçonnerie du Grand Orient de France. Le deuxième pilier, c'est l'engagement sociétal. Cet engagement sociétal, il est consubstantiel à notre histoire. Et à travers le cycle des engagements d'humanisme cette année, à travers le cycle consacré à la contestation de l'antimaçonnisme que nous avions produite l'année passée, nous avons cherché à rassembler les loges, et toujours en partant du principe que c'est des loges que l'extériorisation doit provenir. Et ça, c'est quelque chose qui a été très fort. On pourrait prendre l'exemple des utopiales maçonniques ou de la journée Jean Zay de l'école et de la jeunesse. Tout ce travail d'extériorisation est parti des loges, et ça me semble être l'ADN du Grand Orient de France. Troisième pilier, la solidarité en interne, à travers ce qu'on a fait pour nos membres les plus âgés, notamment les aider quand ils sont confrontés à la dépendance, même si c'est un chantier qui est encore un chantier devant nous, mais également la cotisation solidaire qu'on va présenter au convent et qui doit notamment permettre de faciliter l'entrée dans notre obédience des plus jeunes, qui ne sont pas nécessairement encore entrés dans la vie active. La solidarité à travers la fondation, fondation du Grand Orient de France s'est illustrée avec des actions significatives. Reprenons ces trois années à l'attention de la crèche Babylou, combat pour la laïcité, la lutte contre l'illettrisme, le polyhandicap. J'étais encore début du mois de juillet dans le cadre des journées des jeunes maçons à Montpellier. J'étais auprès de l'association Le Refuge, qui se mobilise pour aider les jeunes homosexuels ou transsexuels victimes, finalement, du rejet de leur propre famille. Et puis enfin, le quatrième pilier, c'est l'international. Le Grand Orient, ce sont désormais des loges en Tunisie, à Pondichéry, à Port-au-Prince en Haïti, à Kinshasa. C'est une troisième loge au Cameroun, une troisième loge en Israël. Ce sont également des triangles en Australie. C'est le Grand Orient de Thaïlande. Donc c'est...
Alors des triangles, c'est pas encore une loge hein, pour
voilà,
nos auditeurs.
C'est un embryon, on va dire.
C'est un embryon de loge. C'est-à-dire c'est une réunion qui est plus informelle d'un petit nombre de frères avec l'idée de fonder une loge.
C'est aussi une nouvelle loge à Saint-Pétersbourg en Russie. Et je crois que ce fantastique développement du Grand Orient de France en dehors du territoire national, au-delà de nos frontières, est un message merveilleux pour l'avenir de la maçonnerie.
Et du Grand Orient de France. En matière de relations interobédientielles, quelle est la situation ? Parce que le Grand Orient de France a une longue tradition de relations internes à la France métropolitaine, mais aussi outre-mer et au sein de l'Union européenne, et même au-delà, avec l'Amérique du Sud, nous avions des liens très forts.
Alors, les relations interobédientielles aujourd'hui sont, on peut dire, d'excellente qualité. Moi, quand je suis arrivé en fonction... Il y avait quelques tensions, il ne faut pas le sous-estimer, notamment avec la Grande Loge de France. Et je me réjouis que nous ayons aujourd'hui des relations fraternelles et très très solides avec la Grande Loge de France. Parce que on ne doit jamais oublier que le Grand Orient et la Grande Loge de France, c'est un long compagnonnage de route. C'est une histoire où les points de rapprochement et de recouvrement sont peut-être plus nombreux que les différences. Bon, donc ça c'est un point important.
Oui, et puis c'est peut-être justement la trop grande similitude qui fait de temps en temps les volontés de différencier.
C'est le problème de toutes les familles. Il y a toujours des moments où on peut en arriver à quelques mots qui dépassent la pensée. Mais bon, ça c'est un point très positif. Les relations avec les autres obédiences françaises sont également de très bonne qualité. Et je crois que c'est important pour nous. J'observe aussi que nous avons...
Les rencontres Lafayette. On a témoigné, voilà. Puisqu'il s'agit de relations avec...
Tout à fait.
Des obédiences d'inspiration, on va dire, anglaise.
Ouais. Avec la Grande Loge Nationale Française. Je suis convaincu que nous devons être en capacité à instaurer des passerelles entre les deux univers de la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie libérale à dogmatique qui est la nôtre et la franc-maçonnerie dite régulière. C'est aussi un acquis important, et les rencontres Lafayette en sont un témoignage. Et puis au-delà, à travers le monde, nous avons beaucoup développé nos relations interobédientielles. Nous avons aussi consacré beaucoup d'énergie à la constitution de l'Alliance maçonnique européenne, qui regroupe presque près d'une trentaine d'obédiences européennes, pour être capable enfin d'avoir un outil de présence auprès des institutions européennes. Un convent nous l'avait demandé. Nous avons réussi à le construire, cet outil, et il faudra que cette alliance maçonnique européenne soit véritablement le cheval de Troie de la maçonnerie auprès des institutions européennes.
Et que ce soit plus efficace que l'état de l'Union européenne à l'heure actuelle. Les combats du Grand Orient de France ont souvent été évoqués sur cette antenne, les combats passés. Mais quels vous semblent être les combats ou les défis à venir déjà présents que le Grand Orient de France doit relever?
Ces trois années auront été des années, à certains égards, difficiles, parce que on a vu renaître l'antimaçonnisme. Il existe depuis toujours, mais il y a eu effectivement une sorte de crispation à cet égard. On assiste à une société qui régresse à travers la résurgence de l'homophobie. le déchaînement qu'a suscité le mariage pour tous. Moi, je suis très fier d'avoir reçu Madame Taubira au Grand Orient de France en décembre 2013, dans un moment où elle était conspuée. Il y a eu les attentats qui montrent la violence qui s'empare de notre société. Je garde un souvenir très ému aussi de cette tenue qui a eu lieu en la mémoire de Bernard Maris, qui faisait partie des victimes des attentats de Charlie. Et au-delà de ça, on voit bien que l'humanisme auquel on croit est chaque jour malmené parce que la société mondialisée finalement se déshumanise chaque jour un peu plus. Donc ces années auront été des années de combat et en même temps des années de résistance. Et je crains qu'hélas, ce soit l'agenda des mois et des années à venir. De ce point de vue-là, comme nous le disons de façon rituelique à la fin de nos travaux, l'heure n'est pas au repos.
Les dévoiements de la laïcité qui sont faits jour depuis quelques années sont au moins aussi préoccupants que des formes de régression ou d'abandon de la laïcité. Est-ce que c'est pas un enjeu pour le Grand Orient de France ? Qui, contrairement d'ailleurs à un certain nombre d'idées reçues, est sur ce point à la fois ferme mais non sectaire. Laïcisme ne fait pas vraiment partie en réalité de notre culture, mais la fermeté, oui.
Le laïcisme, c'est quand on considère que on doit instaurer une police vestimentaire dans la rue, comme peut le dire le Front National. Mais aujourd'hui, ce qui me préoccupe, c'est que la laïcité est l'objet d'une controverse malsaine qui dénote en réalité l'affaissement ou l'affaiblissement de l'esprit républicain. On a perdu de vue le fait que la laïcité est la pierre angulaire de la République. Bon, et il ne s'agit pas de défendre une laïcité dure ou molle. Il s'agit simplement d'avoir conscience qu'il n'y a pas de société sans règles et que la laïcité est là pour rappeler qu'il y a des limites, qu'il y a des principes qui excèdent ou dépassent les simples revendications de tel ou tel. Bon, et c'est cela l'idée. Bien entendu, la laïcité, elle est aussi sous-tendue par un principe, une volonté d'émancipation. Et il n'y a pas de laïcité sans un projet d'intégration économique et sociale. Bon, c'est tout cela qui aujourd'hui est en cause. Et les différents échecs que notre société a pu connaître, eh bien, d'une certaine façon, font le lit d'une contestation de la laïcité ou de ces dévoiements de la laïcité, pour reprendre notre expression.
J'en reviens à ce qui est d'ailleurs dans notre Constitution, l'idée d'améliorer à la fois l'homme et la société qui définit le Grand Orient de France et qui se traduit par cette démarche à la fois initiatique, personnelle, mais aussi collective et sociale ou sociétale. Est-ce que c'est encore de saison ? Est-ce que ça a encore un avenir ? Est-ce que le repliement sur soi...
Quand on voit
pour dire autrement, construire le temple intérieur, c'est sans doute pas faire un bunker.
Oui, mais parce que, bien entendu, c'est pas un bunker, le temple intérieur. Quand on voit que des parents peuvent rejeter leurs enfants parce qu'ils sont homosexuels, quand on voit que on construit des murs aux frontières de l'Europe pour rejeter des hommes et des femmes ou des enfants qui cherchent à fuir des pays en guerre voués au malheur. Quand on constate tous ces drames humains qui nous environnent, on est bien obligé de constater que l'amélioration de l'homme est un chantier qui est loin d'être achevé. Je pense que d'ailleurs, c'est un chantier qui n'aura jamais de terme, parce que l'amélioration de l'homme, au sens humaniste du terme, est une tâche sans fin. Donc je crois que oui, on est confronté à cette exigence encore plus aujourd'hui qu'hier. Et bien entendu, l'amélioration de la société, dans un moment où on assiste au dépérissement de l'État, mais pas au sens marxien, c'est-à-dire que l'État se dilue dans une société mondialisée dans laquelle, finalement, les acteurs publics sont placés sur un pied d'égalité avec les entreprises. Quand on voit...
Des ONG,
je pense notamment à toutes les discussions qui ont trait au traité de transatlantique. Quand on voit que l'Europe est en train de se démanteler progressivement, On a connu il y a quelques semaines de cela le scrutin britannique sur sa décision, la décision de la Grande-Bretagne de quitter l'Europe. D'ailleurs, quand on voit toutes ces évolutions, on peut avoir le sentiment que l'on a régressé par rapport à l'esprit qui avait finalement prévalu après la dernière guerre. Et pour ne pas parler, évidemment, de la résurgence des populismes de tous bords dans beaucoup de pays en Europe, y compris en France, qui sont là finalement pour faire miroiter une solution qui ne sera qu'un leurre. Donc toutes ces questions-là, finalement, nous conduisent à penser que le projet maçonnique d'améliorer l'homme et la société...
La déliquescence des syndicats, d'un certain nombre d'organisations représentatives, des partis, on le voit, va aussi dans le sens de cette réflexion. C'est une préoccupation. Peu de choses irriguent la vie politique et surtout la réflexion.
Parce qu'il y a peut-être aussi une réflexion à avoir sur les modes de représentation, sur la... il faut peut-être penser les corps intermédiaires que sont les partis, les syndicats, différemment de ce qu'ils ont été. Je veux dire, les sociétés se transforment, les sociétés évoluent, et il y a certainement un travail d'ingénierie à concevoir sur ce que seront les équilibres de la société de demain. Bon, ça, personne n'a la réponse, mais les partis comme les syndicats sont mortels. L'histoire l'a d'ailleurs montré.
Espérons que le Grand Orient de France ne l'est pas.
Le Grand Orient de France a eu l'occasion de mourir à de nombreuses reprises. L'histoire ne lui a pas toujours été facile. Mais 3 siècles après, il a montré un véritable esprit de résilience et de résistance.
Daniel Keller, merci. Je souhaite à chacun un bon dimanche et un bel été, de vacances ou pas. Il y en a qui travaillent et j'ai une pensée pour eux. Je remercie Pierre Monteil à la technique. Notre réalisatrice Dany Journeau. Vous pouvez réagir à cette émission sur dapc@godf.org. Merci et au premier dimanche de septembre.